France Musique. Les grands entretiens. Lionel Esparza.
Je suis Olivier Beaumont, claveciniste. Je suis né le 15 août 1960 à Saint-Dié dans les Vosges.
Olivier Beaumont, en 2007, votre deuxième livre important, on va dire, après Le Couperin, il est consacré à la musique à Versailles, qui est un énorme travail, très bien illustré. Moi qui m'a passionné, je dois dire, lorsqu'il est sorti, parce que c'était pas seulement une histoire, on va dire, de ce qu'a pu être la musique avec des dates, avec des grands mouvements, mais c'était la musique telle qu'elle se faisait tous les jours à Versailles. Vous nous montriez dans ce livre-là que la musique était tout simplement le quotidien de tout le monde, pas seulement des musiciens, du roi lui-même, des courtisans aussi.
Exactement, je pense que la musique était une sorte de splendide bande-son de ce film incroyable qu'est les Bourbons à Versailles, dès Louis XIII même, et évidemment jusqu'à Louis XVI. Donc c'est vrai que j'ai mis un an à peu près à trouver le plan, c'est-à-dire comment on raconte cette musique-là. C'est le lieu profane, je pense, en Europe qui a généré peut-être le plus de musique pendant aussi longtemps, à mon avis. Et donc, dès que j'ai trouvé l'idée de placer la musique justement dans le quotidien des gens, c'est-à-dire que les trois emplois du temps qui régissaient la vie de la cour, c'est-à-dire l'emploi du temps ordinaire, c'est-à-dire l'emploi du temps qui était... public était connu, c'est-à-dire le lever du roi, le conseil, la messe du matin, la chasse, l'ordinaire, enfin qui était quand même dans régulier. Donc les activités publiques et régulières, ça c'est l'ordinaire. L'extraordinaire, c'est tous les événements qui surviennent heureux ou malheureux. Évidemment les victoires, les défaites militaires. Les défaites, il y avait généralement pas trop de musique, mais les victoires, les naissances, les morts, les mariages et tout ça. Et puis le particulier où la musique a beaucoup d'importance, qui est un emploi du temps complètement libre, où effectivement il pratiquait la musique, mais là dans l'intimité. Donc ordinaire, extraordinaire et particulier, c'est les trois emplois du temps principaux de la cour jusqu'en 1789. Donc c'était plus intéressant évidemment de parler de la musique de cette façon-là, et de vivre effectivement ce que m'a dit Béatrix Saul qu'il faut découvrir Versailles en marchant. Et c'est vrai que quand vous faites le trajet que faisaient tous les courtisans depuis la chambre du roi pour le lever jusqu'à la chapelle royale, en tout cas la dernière, à partir de 1710, celle qu'on voit actuellement, il y a des choses passionnantes. Par exemple, passer dans la petite, l'endroit que j'adore à Versailles, qui est au premier étage de la chapelle royale, qui est une sorte de loge, enfin, où les musiciens se préparaient, qui est un endroit extrêmement touchant. On touche du doigt le moment où les gens vont venir pour chanter le motet devant le roi. Donc, il y avait des choses qui étaient très impressionnantes. Chez Mesdames aussi, le grand appartement au rez-de-chaussée que je trouve splendide. Et puis, l'extérieur aussi, où la musique avait beaucoup cours. Donc, ça, c'était toute la partie jusqu'à effectivement Louis XVI. Après, j'arrivais pas à trouver mon plan où je faisais une partie 19e siècle qui correspondait pas tellement à Versailles, et en fait j'ai fait plutôt une période de la Révolution jusqu'à 1837, qui est le moment où Louis-Philippe fait ce fameux musée à toute l'histoire de France, à toutes les gloires de la France, et où là Versailles devient musée, c'est-à-dire Versailles n'est plus un lieu d'habitation, devient musée. Et de 1837 à nos jours, on a une sorte de grande retrouvaille avec, d'une part, Versailles lui-même. Les romantiques n'aimaient pas trop Versailles. La première génération des romantiques n'aimait pas trop Versailles. C'est Musset, je pense, qui parle du marbre rose ennuyeux de Trianon, je pense que de mémoire. Et en revanche, dès le Second Empire, Troisième République, il y a eu une sorte d'intérêt pour deux personnes, dont certaines personnes finissent par croire qu'ils étaient mariés. C'est Louis XIV et Marie-Antoinette. Où c'est les deux grandes figures de Versailles, et toute la génération ensuite des années 70, 80, 90, il y a eu un grand retrouvail de Versailles, et la musique aussi a fini par être découverte. Donc le retour à Versailles comme ça, et du coup j'ai fait un chapitre plutôt de 1837 à nos jours, et un chapitre assez court, la Révolution, où contrairement à ce qu'on pense, Versailles n'a pas été du tout saccagé pendant la Révolution, parce que ça a été aussi un dépôt de meubles par exemple, pour les confiscations des biens des immigrés, mais il n'y a pas eu de saccage. On voit à la chapelle royale, assez clairement d'ailleurs, on voit des fleurs de lys dans les murs qui ont été grattés, comme ça, qui ont été effacés. Donc c'est vrai que c'est un livre qui était important pour moi, parce que c'est un lieu que j'adore. J'étais un peu terrorisé quand on m'a proposé l'ouvrage, parce que vous êtes devant une sorte d'immensité absolue. J'avais évidemment tout un comité scientifique autour de moi, et heureusement, tout simplement parce que quand j'écris sur le grand motet sous Louis XIV, je connais ça comme un musicien qui pratique cette musique, mais il y a des gens qui sont spécialistes du grand motet depuis 30 ans, donc, que j'écoutais religieusement, bien sûr. Donc le livre est aussi beaucoup, je l'ai signé moi, mais évidemment, il y a... beaucoup de personnes m'ont aidé pour cette redécouverte de la musique à Versailles.
Qu'est-ce qui vous fascine toujours encore aujourd'hui à Versailles, Olivier Beaumont ?
C'est difficile à dire. Je pense que tout me fascine. C'est-à-dire que si je suis un peu tendu ou un peu énervé, je prends le RER. Et le simple fait d'arriver devant la grande cour, je me sens plus calme déjà. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti physique. Beaucoup. Je fais beaucoup de promenades dans le parc aussi. J'adore en hiver quand les statues sont recouvertes, vous savez, pour qu'elles ne gèlent pas. Je fais très souvent à pied le trajet jusqu'au Trianon. Je vais souvent jouer les instruments qui sont à Versailles. Il y a deux clavecins splendides que j'ai enregistrés d'ailleurs deux fois, qui sont dans le cabinet d'angle de mesdames au rez-de-chaussée, qui est juste en dessous du salon de la guerre, c'est bien ça. Et donc c'est un endroit exceptionnel. Et puis enregistré à Versailles en plus, avant de répondre à votre question, c'est vrai qu'on enregistre le soir tard, donc on a Versailles pour soi tout seul à 1h du matin. C'est vrai qu'il y a quelque chose de juste indicible, quoi. Oui. Mais c'est vrai, c'est drôle, quand on a une telle histoire d'amour avec le lieu, je pourrais pas vous dire précisément pourquoi. On n'explique pas toujours l'amour, je pense, et peut-être qu'il ne faut pas trop expliquer, mais je constate que je ne suis jamais pratiquement un mois sans aller à Versailles. C'est très rare que je sois... ou si j'ai, c'est comme Venise, si je n'ai pas été pendant un moment, donc je vais deux fois de suite pour rattraper un peu.
Parler du fait de jouer du clavecin à deux, vous l'avez pas mal fait, ça quand même. On a bien compris que vous étiez avant tout soliste, d'abord chambriste aussi, mais c'est vrai qu'on sent bien le clavecin comme un lieu de rencontre. Or, il se trouve que le jouer du piano à deux, à quatre mains, ça a une certaine logique sur le clavecin qui est beaucoup plus petit. Mmh. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça réclame pas quand même, enfin, je sais pas, quel type de rapport tout simplement ça engage?
Alors, il y a deux productions à deux, il y a le quatre mains et puis le deux clavecin. La taille du clavecin est tellement précise qu'il faut quelqu'un avec qui vous pensez la musique de la même façon. Vous pouvez faire un récital à deux clavecins qu'avec quelqu'un où vous entendez spécialement bien. Il y a des gens avec qui vous posez même pas la question, vous êtes immédiatement ensemble. Donc j'ai joué beaucoup avec David Moronet, avec mes anciens maîtres d'ailleurs, aussi bien Kenneth que Huguette, Dreyfus. J'ai aussi joué avec Béatrice Martin beaucoup, et avec beaucoup d'anciens élèves comme Justin, Aurélien Delage beaucoup. Donc c'est une pratique que j'aime bien, effectivement, le deux clavecins. Une des plus belles pièces à deux clavecins français, c'est cette fameuse allemande du 9e ordre de Couperin, qui est une pièce assez extraordinaire. On regrette presque qu'il n'ait pas continué après, la pièce est tellement incroyable. Et c'est une pièce d'ailleurs pas toujours très facile pour l'ensemble, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est deux solistes qui conversent presque chacun de leur côté. C'est pas du tout comme le contrepoint des concerts de Bach, où on est beaucoup plus liés dans un même concert contrapuntique. Les deux, là, on a l'impression que chacun veut valoriser son art de jouer le clavecin. Et quelque part, la pièce ne doit pas forcément sonner complètement de façon extrêmement verticale. S'il y a quelques décalages, ça sonne assez bien de cette musique française. C'est une pièce extraordinaire, mais d'ailleurs unique dans le répertoire français, parce que les autres pièces à deux clavecins qu'on a chez Couperin, c'est plutôt quand il dit que les nations, par exemple, qui sont pour deux instruments dessus et basse continue, on peut les jouer à deux clavecins, les deux apothéoses, etc.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Beaumont.
Est-ce que vous êtes bibliophile, Olivier Beaumont ? Enfin, est-ce que vous aimez les vieux livres ? Parce que je dis ça parce qu'il y en a là, une étagère en face de moi, qui ont l'air d'être des ouvrages du XVIIe, XVIIIe siècle.
Oui, je suis bibliophile. Je me considère, là aussi, je suis un bibliophile du dimanche, je dirais. J'aime bien avoir quelques livres anciens, quelques partitions anciennes, effectivement. Je suis pas sûr d'avoir véritablement l'âme d'un collectionneur, mais simplement, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des objets qui vous appellent. Une petite chaise qui est dans la pièce du clavecin, par exemple, qui est une petite chaise Régence. Je l'avais vue Et puis je l'avais pas acheté, je me dis non, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'une chaise, enfin, ce genre de choses comme ça. Et bien sûr, vous avez l'impression que des objets vous appellent. Donc c'est en ça que peut-être j'ai ça en tant que collectionneur. Il y a des livres, parmi des partitions, je me dis ça, je peux absolument pas ne pas l'avoir. Donc en ça, je suis peut-être bibliophile et collectionneur, mais la collection est réduite bien sûr. Mais bon, j'ai des belles choses en livre, effectivement, la première édition de l'Émile de Rousseau, j'ai plusieurs ouvrages du 17e. Et partitions, effectivement, je commence à avoir une belle série de partitions anciennes, notamment qui ont été des legs, enfin des choses que m'ont laissé mes professeurs après leur mort.
Entre autres des partitions de Couperin, je crois.
Oui, j'ai édition originale de livres de Couperin qui appartenait à Cramer au 19e siècle. J'ai ces éditions anglaises de Scarlatti, de Rosengrave, dont il y a une annotation où c'est marqué Clara Schumann empruntait ce volume toujours et qu'elle a beaucoup loué la qualité de cette musique. Donc il y a des choses assez étonnantes comme ça. Donc c'est un peu une sorte de jardin secret. Je les prends pas en concert, bien sûr. Je me vois pas voyager avec ces partitions. Mais en revanche, je reviens toujours auprès d'elle et peut-être dire une chose sur ce qu'on appelle les facsimilés actuellement, tout simplement parce que je lutte toujours contre l'idée que le facsimilé, c'est pas l'original. Et il faut faire attention que quelquefois le procédé de reproduction de photographie fait qu'on a des choses qui sont effacées ou oubliées. Donc faisons attention, le facsimilé n'est pas la Bible absolue du tout. D'abord parce que des erreurs peuvent arriver par la reproduction. Et qu'en plus, quelquefois, les éditions modernes faites par des musicologues qui comparent différentes versions sont aussi indispensables parce qu'on a plusieurs états des pièces. Et donc, un seul facsimilé n'est pas du tout forcément correct. Donc, très important de connaître aussi beaucoup de la genèse de l'œuvre si on peut l'avoir.
Tourne la tête. Bon, d'un côté, en effet, les livres et partitions anciennes, de l'autre côté, le moderne. Je vois quelques rayonnages de Pléiade, de Gallimard, d'autres éditions, les éditions du Chêne en face de moi. C'est très bien rangé. Tout ça, mais vous nous avez expliqué pourquoi en début de discussion.
C'est bien qu'on ait fait l'émission maintenant et pas il y a 2 mois. Oui, c'est bien.
Il y a quand même un nom qui ressort, c'est celui de Proust, que j'ai l'impression de voir plusieurs fois.
Oui, Proust, je lis la recherche tous les 10 ans, je pense. Et là, c'est un auteur qu'une vieille amie qui est décédée maintenant m'avait offert les volumes de la Pléiade au fur et à mesure de ma lecture. Donc, je dois être à ma quatrième lecture de la recherche. J'ai un projet d'ailleurs pour l'an prochain, 2022, qui est le centenaire de la mort de Marcel Proust en novembre, et autour d'un, je vais appeler un clavecin pour Marcel Proust, en relisant la recherche juste par le tout petit truchement du clavecin. Il y a très peu de choses sur le clavecin. Et puis j'ai trouvé une pièce, je vais pas tout révéler, mais j'ai trouvé une pièce de clavecin d'un auteur de début 20e siècle qui est directement lié à un personnage de la recherche. Donc après, on tire un peu le fil et on peut bâtir tout un programme autour de ça que j'enregistrerai et puis que je vais faire en concert l'an prochain. Donc oui.
C'est un peu d'histoire microscopique, c'est ça, à partir d'un élément qui a totalement.
Voilà, exactement. Et qui fait qu'après, on tire un fil comme ça qui est assez fascinant. Donc oui, la recherche me console de tout, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y a pas une... Chaque fois qu'on le relit, j'ai l'impression de l'avoir pas lu, alors que ça fait la 4e fois, tellement c'est vaste. Mais en même temps, on ouvre une page et on sait tout de suite où on en est dans la recherche. C'est drôle, il y a quelque chose qui est une familiarité comme ça qui fait qu'on a vous ouvriez n'importe où et oui, vous savez très bien où vous en êtes dans la genèse de cette histoire. Ce qui est fascinant dans le roman, c'est cette idée que on termine le roman et le narrateur va commencer à écrire le roman que nous, on vient de terminer. La simple idée déjà est juste assez vertigineuse. Et puis, c'est cette virtuosité psychologique. Il y a des moments où le livre vous tombe des mains. Vous lisez tellement quelque chose, vous avez ressenti sans du tout pouvoir l'exprimer avec le pauvre vocabulaire que vous avez, vous. La fin de Combray, chapitre de Combray, il y a des choses qui tombent des mains vraiment tellement. C'est d'une puissance de pensée, d'une finesse assez extraordinaire, quoi, de virtuosité psychologique. Incroyable, avec deux grands absents dans la recherche qui sont un peu la religion quand même et puis la psychanalyse au moment de Freud, et c'est vrai que c'est complètement absent de la recherche, mais dans ça l'aventure psychologique du narrateur et tous les personnages, c'est quand même une virtuosité qui laisse pantois quand même.
Quelque chose qui est bien présent pour le coup, c'est l'humour. En particulier dans les grands moments de sociabilité, il y a une sorte de portrait des sociétés qui est à la fois extraordinairement cruel, qui a une certaine forme de tendresse aussi, une sorte de distance avec les choses. Vous êtes, j'imagine, très sensible à cet humour-là aussi.
Oui, les gens qui connaissent pas la recherche pensent pas à quel point c'est drôle. Surtout, la recherche est avant tout extrêmement drôle. Enfin, Madame Verdurin qui est obligée d'être alitée pendant 3 jours quand elle entend le prélude de Tristan, tellement ça la bouleverse. Il y a tellement de choses extrêmement drôles. Enfin, il y a des choses incroyable. Et pour les gens qui n'ont pas lu la recherche, c'est qu'ils disent toujours j'attends d'avoir une jambe cassée pour la lire ou comme ça. Heureusement, on peut aller à la recherche sans accident privé. Et il faut dire à quel point c'est drôle. Et c'est un trésor d'humour, de côté brillant et de saisir des ambiances particulières. C'est incroyable.
Disait donc beaucoup, Olivier Beaumont. C'est comme, enfin, vous n'êtes pas unique dans ce cas-là, mais enfin, parmi les musiciens, on sait que parfois les musiciens se cantonnent un peu à ce qu'ils font et au travail sur leur instrument. C'est pas votre cas?
Je suis un boulimique de lecture. Moi, je suis dans une famille qui lit beaucoup et j'ai appris la lecture avec mon grand-père, d'ailleurs, dont je parlais, qui était professeur de latin grec, qui m'a appris à lire avec La Légende des siècles. Je me souviens très bien quand j'étais tout enfant, bien sûr. Et je peux lire 2 heures chaque nuit. Je suis pas un grand dormeur toujours, donc je lis beaucoup. Et c'est vrai que je lis tout le temps. Et le choix d'un livre quand on part faire un concert, c'est essentiel. J'aime mieux avoir trop de livres que s'il m'arrive par exemple de rester un jour où j'ai plus de livres à lire et je dois prendre l'avion ou tout et j'ai pas de livres. Là, c'est une catastrophe absolue. Donc quelquefois je prends trop de livres comme ça. Il y en a un de la valise qui reste dans la valise parce que j'ai pas le temps de lire. Mais j'aime mieux ça que surtout être en manque de livres. Et le choix du livre est très important. C'est-à-dire que si on part avec un livre qu'on n'a pas trop envie de lire, qui vous motive pas trop, d'un seul coup l'endroit où on se trouve devient moins intéressant.
C'est une incidence sur le concert.
Oui, beaucoup, beaucoup. Ah bon? Le choix du livre qu'on prend pour les concerts, pour moi, c'est absolument essentiel. Ouais. Le choix des marque-pages, mais le choix des livres aussi, et surtout des livres.
Et des journaux peuvent pas tenir le rôle de...
Oui, des journaux. Oui, bien sûr. Mais je suis abonné à un quotidien, donc Libération en l'occurrence, pour ne pas leur faire de publicité, que je reçois tous les jours. Donc je lis effectivement des quotidiens. Je lis pas beaucoup d'hebdomadaires, mais les quotidiens, je lis pas mal. Et je déteste lire sur Internet. Par contre, je trouve que la lecture sur Internet est difficile. Donc non, je lis des quotidiens aussi parce que j'ai pas la télévision, ce qui est pas un acte culturel volontaire ou raide, mais c'est juste que j'ai jamais eu et j'éprouve pas le besoin de l'avoir. Donc je sais pas où je la mettrai déjà. Et donc c'est vrai que j'ai pas de télévision et j'en suis absolument pas en manque du tout.
Alors la télévision non, mais il y a le cinéma, et ça pour le coup c'est un art que vous aimez beaucoup, vous avez parlé de Barry Lyndon à la première émission, de votre goût commun avec Jean-Marc Luzada pour le cinéma, est-ce qu'il y a un film, je ne sais pas, qui serait peut-être celui qui vous représente le plus, que vous aimez le plus tout simplement?
Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup, dans les films de l'île déserte, comme on pourrait dire, il y a All About Eve de Mankiewicz. Je pense qu'il y a quand même un des films les plus intelligents sur le rapport avec la scène, sur le désir de faire une carrière. C'est quand même des films les plus brillants. La même histoire racontée par 4 personnages différents. Et j'ai eu la chance, miraculeusement, de rencontrer Mankiewicz exactement 20 secondes au Festival de cinéma américain à Deauville, où la directrice, j'étais avec Jean-Marc Luzada, et la directrice nous le présente. Et j'ai pu lui dire, j'étais quand même content de lui dire que mon film de l'hiver, c'était All About Eve. Et il m'a dit merci, vous pouvez me dire autre chose que merci. Mais il avait des sortes de bottes de cow-boy un peu très américain comme ça, texan un peu, pas texan sans doute, mais enfin bon. Mais j'étais content de pouvoir dire ce film m'a tellement marqué. Tous les films de Mankiewicz, mais quand même All About Eve, je trouve que c'est une des choses les plus intelligentes sur le phénomène, sur le désir de la scène, quoi. C'est, quand quelqu'un dit à Eve à un moment, mais vous avez fait tout ça juste pour avoir un rôle, elle dit, mais j'aurais fait beaucoup plus que ça encore. Il y a le film est d'une intelligence, parce que très ambigu sur l'arrivisme qui est dénoncé, mais sur le fait aussi que tous ces gens-là ont comme amour en commun d'être sur scène, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très, très beau.
So little did you say. Why, if there's nothing else, there's applause. I've listened backstage to people applaud. It's like waves of love coming over the footlights and wrapping you up. Imagine to know every night that different hundreds of people love you. They smile, their eyes shine, you've pleased them. They want you. You belong. Just that alone is worth anything.
Je vais un peu moins au cinéma qu'avant. Dans les années 90, j'allais au cinéma deux ou trois fois par semaine. Et j'y vais beaucoup moins maintenant. Je sais pas pourquoi, mais j'éprouve un peu moins le besoin d'y aller. J'ai vu une Dreyfus Visconti il y a peu de temps. J'étais content de voir Le Guépard, que j'avais pas vu depuis très longtemps, qui est quand même un opéra de Verdi au cinéma. Donc, mais c'est vrai que les centres d'intérêt ont toujours été quelque part malgré tout plus littérature et peinture, clairement, et histoire, que en dehors de la musique bien sûr, que le cinéma. Mais j'aime beaucoup le cinéma, mais pas d'une façon exclusive.
Olivier Beaumont, on a passé là, 60 ans de vie, hein, faut bien le dire, hein, avec beaucoup de très belles choses, des livres, des disques, les concerts, tout ça dont on a parlé, ce parcours-là. Est-ce que vous êtes un homme à bilan, à regarder le passé comme ça et à dire, j'en tire un bilan, et si oui, quel est-il?
Je pense pas que je sois trop un homme à bilan. Ça m'arrive souvent de me retourner sur des choses que j'ai faites ou que j'ai vécues parce que ce sont des beaux souvenirs. Donc, heureusement, on a tous une mémoire un peu sélective, je pense. On se souvient surtout des belles choses. Je suis tombé l'autre jour sur une photo de moi en classe, je pense en cinquième, je trouve comme ça. Et je me suis dit, après tout, peut-être que le bilan, c'est simplement se dire, voilà, le gamin qui est là sur la photo, j'ai envie de pas le décevoir. Je pense que j'ai envie de tenir les promesses qui s'étaient faites lui-même. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Je pense pas être un homme de bilan. Je suis pas non plus un homme de projection toujours. Je pense pas que je prévois des sortes de plans de carrière biannuels. Je suis pas tellement comme ça. J'insiste aussi beaucoup pour vivre le moment présent. Les choses sont tellement éphémères pour tout que, mon Dieu, carpe diem. Et on peut trouver le bonheur aussi, c'est un peu banal ce que je dis, mais je le pense sincèrement, juste de prendre un café, à la terrasse d'un beau café, profiter d'un moment très agréable. La seule chose, c'est juste, t'entends, je vois des photos de mon enfant, je dis, voilà, j'espère que j'ai tenu les promesses qui s'étaient faites. C'est la seule chose peut-être que je pourrais dire sur ça.
Avec ces langueurs tendres de François Couperin, s'achèvent nos grands entretiens consacrés à Olivier Beaumont. Un grand merci à Marie-Christine Ferdinand, Lionel Quentin, Sébastien Hubel et Nicolas Depagraf. Vous retrouvez les grands entretiens sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.